Orange, engagée dans la transformation numérique des territoires, est partenaire du podcast 7 minutes avec un maire.
Bienvenue sur 7 minutes avec un maire, le podcast de RCF, la revue des collectivités locales. Dans un contexte sanitaire particulier, les maires témoignent. Bonne écoute.
RCL reçoit aujourd'hui le maire de Montereau, en Seine-et-Marne. Bonjour, James Chéron. Quelles sont vos ambitions pour cette ville que vous dirigez depuis 2017?
Les ambitions que la municipalité peut avoir pour la ville, c'est la retranscription des ambitions des habitants de la ville elle-même. Nous ne sommes jamais, en tant qu'élus, que la prolongation et la construction des ambitions des habitants. Notre ambition aujourd'hui à Montereau, c'est de faire que nous puissions prendre notre place dans un territoire en plein développement. Montereau, c'est une ville de un peu plus de 20 000 habitants en Seine-et-Marne, vraiment à la frontière entre la Seine-et-Marne, l'Île-de-France et la région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc notre ambition, c'est de faire en sorte d'inverser le regard, plutôt que d'être une petite ville presque à l'extérieur de la région Île-de-France. Nous voulons inverser le regard pour être la porte du sud-est de la région Île-de-France, la porte de Paris, Montereau porte de Paris. C'est là notre ambition et ce que nous construisons en matière urbaine, en matière humaine, en matière environnementale, est orienté vers cela. Comment faire en sorte que notre territoire soit attractif, c'est-à-dire à la fois qu'il soit un lieu où les habitants de notre commune puissent s'épanouir, construire leur réussite personnelle, construire une réussite collective pour le territoire, mais aussi un territoire qui puisse attirer de façon active et non attirer par défaut, ce que parfois les territoires périphériques sont relégués à faire. Et notre ambition, évidemment, est d'attirer de façon positive, et tout ce que nous mettons en œuvre comme politique publique est orienté dans ce sens.
D'accord. Alors, Montereau a créé la Digital Academy qui propose des formations diplômantes à distance. La ville arbore également le label national Ville Internet. Quels sont pour vous les enjeux du numérique et quelles sont vos actions en faveur du numérique ?
Les enjeux du numérique, c'est à la fois la modernité et s'inscrire dans le temps qui est celui du 21e siècle. Et puis, c'est aussi l'enjeu environnemental qui peut trouver évidemment sa richesse, sa déclinaison à travers l'utilisation du numérique. Je suis maire de Montereau et effectivement, la ville de Montereau fait beaucoup. Je vais juste faire une parenthèse. Je suis aussi vice-président chargé des lycées au Conseil régional d'Île-de-France. Et nous portons une ambition numérique au sein des lycées qui ne peuvent pas être les derniers lieux ringards dans lesquels les jeunes, ceux qui sont nés au 21e siècle, vont trouver le siècle d'avant et le monde d'avant. Donc on voit qu'il y a un phénomène de projection, d'appropriation, en tout cas de modernité, et que le numérique est vraiment au cœur de ces enjeux. À Montereau, vous avez cité la Digital Academy. Effectivement, c'est ici que on a inventé un tiers-lieu d'enseignement supérieur à distance. Puisque nous sommes loin des universités et que nos étudiants ne vont pas tous à l'université, ils y vont d'ailleurs moins que les autres habitants du département ou de la région, eh bien nous avons créé un endroit où c'est l'université, les universités, presque toutes les universités de France qui viennent au plus près des habitants de notre territoire. C'est un tiers-lieu, on s'inscrit à un enseignement à distance, mais on ne reste pas seul chez soi, on a un lieu d'études qui est un tiers-lieu, où on vient avec des étudiants partager cette ambition d'études. C'est un tiers-lieu, c'est la Digital Academy de Montereau, et ça a servi de modèle pour ce que le gouvernement a construit, qui s'appelle les campus connectés. C'est même un peu mieux que les campus connectés, parce que nous avons une vision extrêmement large et beaucoup plus de formations qui sont accessibles dans la Digital Academy de Montereau que dans les campus connectés. Donc l'idée du numérique, c'est vraiment de pouvoir rendre des services supplémentaires, rendre une meilleure qualité de service aux habitants de notre commune ou du territoire. Nous n'avons pas d'université et en fait nous avons presque toutes les universités à Montereau grâce à la Digital Academy. Et c'est un exemple effectivement de l'utilisation du numérique pour rendre un meilleur service aux habitants du territoire. Nous en avons d'autres, naturellement. Nous avons une place de marché numérique qui s'appelle j'achète à Montereau.fr. nos commerçants de Montereau n'ont pas la dimension ou les moyens d'être présents sur les grandes plateformes de distribution sur Internet. Et c'est une concurrence qui s'offre à eux, contre laquelle il est difficile de lutter à leur échelle. Et nous avons donc inventé une plateforme de marché en ligne pour que les habitants du territoire puissent acheter en ligne, venir faire du click and collect ou se faire livrer grâce à cette plateforme. C'est également l'expérimentation au Conservatoire de Montereau Nomad Play. C'est un service qui permet à nos jeunes musiciens de pouvoir jouer dans des configurations d'orchestre, de musique de chambre, en étant pourtant tout seul. Et c'est là une application qui a été développée par une start-up française. Et on voit qu'en matière de culture, on peut évidemment apporter aussi de la nouveauté. Et c'est de l'immersion musicale qui est proposée à nos élèves. Nous avons naturellement un site internet et une application qui permet à la fois de diffuser de l'information, mais aussi d'interagir avec les services municipaux, soit par exemple en s'inscrivant à des services, en réglant des services. On peut régler sa cantine ou l'accueil du loisir de son enfant directement sur l'application ou sur le site internet, mais d'interagir aussi pour faire changer la ville. Et nous avons proposé aux habitants de nous signaler des désordres qu'ils peuvent constater en matière de propreté, en matière de qualité de vie urbaine, etc. Ils peuvent prendre une photo, envoyer une localisation et un commentaire pour aider les services municipaux à être encore plus efficaces au service des habitants. J'évoquais il y a quelques instants ce que nous faisons à la région pour les lycées, les tableaux blancs, les écrans numériques interactifs. On a distribué un ordinateur personnel à chacun des 500 000 lycéens en Ile-de-France, et ceci parmi bien d'autres exemples. Nous le faisons également à l'échelle des écoles qui sont dans la compétence de la commune, les écoles maternelles et élémentaires, que nous essayons évidemment, et en fonction de ce que sont les âges de ces enfants, d'équiper avec évidemment du très haut débit, des connexions internet à l'intérieur des établissements, mais aussi des écrans numériques interactifs qui viennent peu à peu remplacer tous les tableaux blancs interactifs qui équipent 100% des classes dans les écoles élémentaires de la ville de Montereau, et puis des classes informatiques mobiles qui permettent, avec des tablettes, une tablette maîtresse pour l'instituteur, l'institutrice, et des tablettes pour les élèves, d'avoir des classes dans lesquelles, évidemment, avec la liberté pédagogique des enseignants, il est possible d'utiliser les nouveaux moyens modernes des ordinateurs et des tablettes. Dire également que, en matière de culture, j'évoquais les Matplay au conservatoire, nous avons eu l'une des premières microfolies de France à Montereau, c'est-à-dire une porte d'accès sur l'ensemble des grands musées nationaux de France et même quelques musées internationaux, et au-delà des musées, des espaces scéniques, du spectacle vivant. C'est un programme organisé avec le ministère de la Culture, avec l'établissement public de la Villette et en partenariat avec tous les grands musées de France. Et nous avons cette porte aujourd'hui d'entrée sur les musées grâce au digital. C'est donc au fond une utilisation d'outils dans divers secteurs pour faire en sorte à la fois que l'on vive avec notre temps et dans la modernité, et notamment pour les plus jeunes, et puis pour offrir aussi des nouveaux services à nos habitants. Et puis, pour celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique, eh bien, nous avons un conseiller numérique qui permet notamment aux anciens ou à ceux qui maîtrisent mal l'outil de pouvoir s'approprier cet outil, d'avoir des petits cours, des petites formations, d'aller expérimenter avec le soutien d'un conseiller ce qu'est remplir un formulaire en ligne, ce qu'est déposer une demande auprès des impôts, de la sécurité sociale, etc. Et l'idée étant d'accompagner vers l'autonomie ceux qui ne sont pas encore à l'aise avec l'outil informatique. Donc vous le voyez, c'est des outils, des politiques publiques et une aide personnelle pour que les Montrelaises et les Montrelais se sentent à l'aise et puissent utiliser des services distants et des nouveaux services grâce au digital et au numérique.
D'accord, très bien. Alors, on dit souvent des crises qu'elles sont révélatrices. Qu'a révélé pour vous la crise sanitaire que nous traversons depuis 2 ans maintenant ?
Oh, elle a révélé beaucoup de choses. Premièrement, que notre système de santé n'est pas à la hauteur. Ça ne veut pas dire que les professionnels de santé ne le sont pas. Je crois qu'au contraire, ils sont à la fois très bien formés et très impliqués dans leur métier. Mais c'est notre organisation même de la santé qu'il faut réinterroger, à la fois sur le nombre de professionnels que l'on forme et que l'on embauche, notamment dans les hôpitaux, pour ceux que l'on embauche, et puis en médecine libérale. La médecine libérale est en crise. Les médecins qui partent à la retraite ne trouvent pas de successeurs parce qu'on n'en forme pas assez et parce qu'il y a une concurrence entre les territoires qui fait que si vous n'avez pas la mer, la montagne, ou vous n'êtes pas dans une métropole, eh bien vous avez des difficultés à trouver des médecins pour venir exercer en libéral. Donc ça a vraiment révélé une crise de notre système de santé. Moi, je crois à la décentralisation et nous avons porté avec le groupe UDI auquel j'appartiens au Conseil régional d'Île-de-France, ça a été fait également dans la région des Hauts-de-France, propositions pour régionaliser la santé, non pas à travers des agences régionales de santé qui sont une couche supplémentaire au sein d'appareils de l'État, mais vraiment en déléguant, en confiant aux régions, c'est-à-dire aux conseils régionaux, des missions beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui en matière de santé, pour que la réalité des territoires et la revue des collectivités locales, évidemment, et vos lecteurs et vos auditeurs seront sensibles à cela, pour que les territoires puissent mieux maîtriser, mieux orienter les politiques de santé. Donc évidemment, la crise sanitaire, elle a révélé ce gros sujet de la santé que les professionnels de santé connaissent depuis longtemps, que les élus locaux connaissent depuis longtemps et que l'État n'avait peut-être pas suffisamment voulu voir. Il reste à en tirer les bons enseignements et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc j'espère évidemment que le grand moment démocratique des élections présidentielles et législatives sera utilisé pour réinterroger notre politique de santé. Et puis, il y a des mouvements sociaux un peu périphériques que cette crise a révélé, et je vais en citer un. Je crois que la France était très 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 en retard en matière de télétravail et que l'on a toujours considéré que pour bien travailler, il fallait être présent au bureau le plus longtemps possible, le plus surveillé possible, etc. Et la crise sanitaire et les confinements, les mesures d'éloignement ont fait qu'on a appris en France à travailler comme dans beaucoup d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, à distance. Et on a là un changement de paradigme qui, je l'espère, va durer et que on puisse profiter de cet élan pour réenvisager nos méthodes de travail. Beaucoup de personnes sont concentrées dans les grandes métropoles parce que c'est là où se trouve l'emploi, alors qu'au fond, leur emploi ne nécessite pas d'être dans ces métropoles. Et on a un sujet global de réaménagement du territoire qui, en relocalisant les lieux d'emploi et lieux de développement économique, en encourageant le télétravail, doit pouvoir faire son chemin. Ça viendra évidemment croiser les questions de santé que j'évoquais il y a quelques instants, les questions de transport, les questions d'accès aux études, aux formations, etc. Mais l'hypermétropolisation de notre pays, qui d'ailleurs tente à vider un certain nombre de nos provinces de leurs habitants, n'est, je crois, pas une bonne chose, puisque nous avons des parties vides dans notre pays qui sont en souffrance, et nous avons des habitants dans les métropoles qui sont eux également en souffrance parce que ils n'ont pas choisi de vivre dans ces grandes agglomérations, parce que leurs salaires ne permettent pas forcément de s'adapter à un niveau de vie qui est souvent plus cher dans les grandes villes. Et je crois que la crise doit nous indiquer une nouvelle route à suivre en matière d'aménagement du territoire. J'ai beaucoup débordé de la question simple, de la en première en tout cas, elle est bien complexe, de la santé, mais je crois qu'il y a des changements sociaux qui peuvent être induits par cette crise sanitaire. Et si l'on en tient compte, on répondra aussi peut-être, et enfin, à la crise des gilets jaunes, qui n'était rien d'autre au fond qu'une crise de celles et ceux qui se sentent relégués, oubliés, qui sont souvent les travailleurs pauvres, et qui trouveraient certainement une forme de réponse avec ce réaménagement du territoire. Quand on travaille mais qu'on n'a pas les moyens d'habiter dans les cœurs de ville où il y a tous les services, eh bien un réaménagement du territoire où on répartirait un peu différemment les lieux de production, les lieux d'emploi, mais aussi les lieux de formation, les centres hospitaliers, la question des transports, etc., serait de nature à répondre aussi à ces enjeux qui avaient été manifestés avec virulence par une grande partie de nos concitoyens et qu'il faut ne pas oublier.
D'accord. Alors, j'ai une dernière question, monsieur le maire. Quel regard portez-vous sur la loi 3DS qui a été récemment publiée au journal officiel ?
C'est une toute petite loi qui n'a pas réussi à prendre en compte les enjeux, notamment ceux que je viens d'évoquer, ceux de la décentralisation, ceux des territoires, ceux de la régionalisation de la santé. Cette loi a été rétrécie d'ailleurs, c'était la loi 4DS, c'était en tout cas un projet de loi 4DS qui a été rétréci. Et pour un décentralisateur comme je suis, et des familles du centre droit, l'ancienne UDF, l'UDI aujourd'hui, qui évidemment est très attachée au territoire, aux élus locaux, au rôle des élus locaux et des collectivités, je crois que cette loi ne va pas assez loin et qu'il faudra y revenir, je pense, assez rapidement. J'appelle de mes voeux, comme ma famille politique, à un vrai choc de décentralisation pour gagner en efficacité. Je crois qu'il faut... Les Européens, et nous sommes aussi Européens, utilisent le mot de la subsidiarité. Il faut faire en sorte de confier chacune des compétences à la strate qui sera le plus efficace. L'État doit s'occuper du régalien confier aux collectivités, confier à l'Europe, confier aux régions, aux départements et aux communes les compétences dans lesquelles ils seront les plus à même d'être ceux qui apporteront les meilleures réponses. L'État hyper centralisé qui décide de tout et pour tout le monde parce qu'il sait mieux que tout le monde, on a expérimenté, ça ne fonctionne pas bien. Et la crise des Gilets jaunes, c'est exactement cela. C'est le ras-le-bol d'un État qui donne des leçons et qui est incapable d'agir. Donc, cette loi 3DS, elle n'est pas à la hauteur de ses enjeux. Et c'est une toute petite loi qui a d'ailleurs été largement vidée de sa substance et sur laquelle il faudra revenir, pas forcément sur la loi, mais en tout cas sur les objets de la loi, notamment ceux de la décentralisation et même de la déconcentration, puisque ce n'est pas parce que l'État ne fait pas tout et ne peut pas tout faire qu'il ne faut pas aussi et quand même accorder aux représentants de l'État dans les territoires une connaissance un peu plus fine de la réalité de ce que nous vivons chaque jour, comparativement en tout cas à la vision que peuvent en avoir les grandes directions générales dans les grands ministères parisiens.
Merci beaucoup, monsieur le maire.